Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
C'est bon, ça marche? Ah, je m'entends dans le casque.
Ah, moi aussi.
T'as monté les curseurs des micros, c'est bon, tout va bien? On est tous... Parfait. Bon, moi, ça va. Oui, c'est rouge, ça va. Le bout est rouge. Donc, quand le bout est rouge, c'est que c'est bon signe.
Ben, c'est toujours bon signe quand le bout est rouge. Mais tu fais bien de lui demander parce qu'il est en rodage, le petit.
Eh ben oui, il découvre à son tour le nouveau matériel. Boris, qui est à la régie et qui est parti dans un voyage au long cours... Et qui nous revient seulement, donc il découvre avec stupéfaction.
Il y a plein de lumière de partout.
Voilà, on dirait un arbre de Noël, je dis.
Et je n'ose toucher à rien.
La nouvelle console, toute neuve, ne la connaissait pas. Il fait comme nous, il fait ses premiers pas.
Mais voilà, si mon grand tripote.
Oui, alors non, c'est marqué ne pas tripoter les câbles, ma sœur.
Oui, d'accord, oui, c'est vrai.
C'est bien noté, partout. Bon, enfin... En tout cas, par avance, on va s'excuser en cas de petit problème technique dû à la découverte de Boris du monde du futur, voilà, de ce que sera Radio Pluriel au 21e siècle. Voilà. Donc j'ai le plaisir ce soir. D'abord, je salue mes auditeurs et mes auditrices, ou mes auditrices et mes auditeurs et les autres.
Et quel que soit leur genre.
Qui nous font le plaisir de nous rejoindre ce soir et qui nous écouteront également sur le podcast parce que le podcast est très écouté. L'émission, je ne sais pas qui nous écoute le soir à 20h, j'espère du monde quand même.
Ah oui, quand même.
Mais on sait que le podcast, j'ai du passage. Donc merci de venir nous voir. C'est gentil. Ouais. Donc ce soir, j'ai le plaisir, le bonheur incommensurable, ineffable, de recevoir les sémillantes sœurs. Enfin, je dis les sémillantes. Là, parce qu'il n'y en a qu'une.
Ben pour l'instant, oui.
Du couvent de Traboul. Voilà, elle est toute seule. Elle a laissé les autres à faire le ménage, nettoyer la cellule.
Oui, les corvées de culottes.
Voilà, tout à fait. Maria Lola Rosa.
Bonsoir, bonsoir mes petits lapins. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent dans le poste. Recevez, mes chers enfants, toutes mes bénédictions du soir. Bonsoir, voilà. Que la paix et la joie des sœurs vous accompagnent, vous bien évidemment, mais aussi vos plans cul et vos amours.
Très bien. Alors, vous n'êtes pas chez nous une inconnue, évidemment, vous êtes venu régulièrement à l'émission,
oui,
déjà.
Oui, merci.
À l'époque, sous le voile du couvent des 69 Gaules, il y a longtemps, oui. Et puis, il y a un an, nous avons célébré ensemble, précélébrer la naissance, l'érection du nouveau couvent des Traboules.
Du nouveau couvent des Traboules.
Voilà. Ce qui fait que Lyon a deux couvents.
Magnifique.
Deux couvents de sœurs de la perpétuelle indulgence.
Et oui, deux fois plus de folles, deux fois plus de tentes, deux fois plus de délire et deux fois plus de radicalité. C'est extraordinaire quand même pour Lyon.
C'est formidable. On n'en demande pas mieux. Et ce soir, Maria Lola Rosa, vous nous avez amené, ma chère sœur, un invité avec vous dans d'autres sillages.
Oui, alors il y avait une place dans mon sac, donc il y avait un pauvre malheureux sur le bord de la route. Je me suis dit, bah tiens, t'as qu'à venir ici, il y a de la lumière, etc. Alors, je précise peut-être, mon grand, pour que ce soit plus facile pour toi, tu m'appelles Lola ou Lola Rosa.
Oui.
Parce que sinon, c'est infernal.
Oui, Lola Rosa. Moi, j'aime bien Lola Rosa.
D'autant plus que quand on a changé de couvent, j'ai fait sauter le Maria.
Ah, c'est pas vrai.
J'ai fait sauter le mari.
Ah oui, d'accord.
Donc, comme ça, c'est sœur Lola Rosa, c'est beaucoup plus facile
d'accord.
pour tout le monde.
Très bien, ma sœur. Nous ferons ainsi.
Merci, mon cher enfant.
Donc, dans votre sillage, je vous amène Nat. J'aime bien le participer.
Oui, un barbu.
Oui, un barbu. On le connaît. On le connaît. Il est déjà venu, déjà, plusieurs fois. Puis, il est bien connu aussi au centre, parce qu'il est très actif là-bas.
Actif, je suis très actif,
passif,
oui, c'est ça.
Tout ce qu'on veut. On ne sait pas, mais cela ne nous regarde pas. Mais voilà.
Exactement.
Jean-Yves, la dernière fois que tu étais venu, tac, 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 c'était avec l'association Frisse.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Donc là, ce soir, je suis le chevalier servant des sœurs.
D'accord.
Je m'efface et je.
Merci.
Pour montrer
mon
soutien.
Pas trop, tu auras le droit à la parole.
Oui, mais.
Bien sûr. Non, voilà. C'est juste que là, sur, en termes de militantisme, c'est je laisse la parole aux sœurs et bon, moi, effectivement, j'interviens si j'ai quelque chose à dire.
Voilà, on pourra donner des nouvelles du centre et puis.
D'accord.
Ma sœur, vous l'autoriserez quand même à parler, non?
Moi, je suis tout à fait de ton avis. C'est bien d'avoir des nouvelles du centre.
Oui, voilà. C'est un grand centre LGBTI que nous avons à Lyon. C'est bien de donner des nouvelles régulièrement.
Et des nouvelles fraîches, puisque Jean-Yves y est très souvent.
Exactement.
Donc merci d'être
le frais, c'est le mieux, oui.
Merci d'être avec nous, mon grand.
Avec plaisir.
La première question, ça va être comment se porte donc le couvent des Traboules? Comment ça se passe?
Le couvent des Traboules se porte bien. Nous avons, depuis notre érection, eu de nombreuses activités un peu partout en France, des activités intercouvents aussi avec d'autres couvents. Bien évidemment, dans la communauté lyonnaise, nous sommes régulièrement sur les trottoirs pour prêcher la bonne parole, distribuer bien sûr nos reliques et du matériel de prévention, et puis surtout avoir des discussions un peu à bâton rompu avec les garçons, avec les filles, sur tout un tas de sujets divers et variés.
Alors on reviendra justement à votre actualité, mes sœurs, ma sœur, à l'actualité. Du couvent des Traboules, puisque vous allez être à nouveau sur le trottoir bientôt.
Ah, oh, mais oui, on fait ça.
Voilà, dans le cadre du site d'action, mais on en reparlera tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi que quand même les sœurs du couvent des Traboules, on les aperçoit de temps en temps, comme ça, évanescentes, apparaissant, comme ça, d'un seul coup. Et j'ai entendu dire que vous étiez à la clôture du festival Écran Mixte, que nous aimons beaucoup, nous participons à notre moyen, avec nos modestes moyens en tout cas, mais vous avez assisté à la clôture, puisque c'était une grande clôture, puisqu'il s'agissait de la diffusion au Pâté Bellecour du film Priscilla folle du désert.
Oui. Hein?
Alors, c'est un fait dans sa version complètement restaurée, rénovée, etc.
Magnifique.
Et le couvent est apparu d'un seul coup devant le public ahuri et sidéré d'une telle apparition.
Ce n'était absolument pas prévu, mais de toute façon, c'était simple. On avait le choix, c'est où on restait dans notre chapelle à se faire un bon porno sur Pink TV, mais on l'avait déjà vu celui-là. Et puis on s'est dit, bah écoute, on va quand même sortir, d'autant plus que la petite avait besoin de sortir, puisque je voyais devant la porte de sa cellule s'accumuler les canettes de bière et les cartons de pizza. Et je me suis dit, bon, il faut quand même la sortir, la petite. Donc, on a passé quelques perles, deux vieux bouts de chiffon, on a traversé le pont et on est allé au Pâté Bellecour. Une magnifique projection, c'était vraiment très 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 chouette de revoir ce film qui finalement est très militant et pose beaucoup de questions. Ça a été l'occasion aussi de rencontrer tout un tas de personnes qui ne l'avaient pas vu, mon grand.
Oui.
Et alors j'ai été vraiment très surprise, parce que finalement, il y a presque une moitié de la salle, 50% de personnes qui n'avaient jamais vu ce film.
Oui. Mais le film, quand même, a 22 ans. C'est une génération, donc il peut y avoir une génération qui n'a pas...
Ah
oui, il a 22 ans.
94. Ouais.
Mon Dieu, comme le temps passe.
Ah, je nie tout le monde. Hein.
Mais j'aurais jamais pensé. 22 ans. Oui. Ben là, tu m'apprends quelque chose. Oui. Toi, j'aurais jamais pensé que c'était... Oui. Écoute, voilà, c'était très chouette de voir toutes ces personnes qui ne l'avaient pas vu et qui le découvraient avec beaucoup de bonheur.
Voilà.
Et puis nous aussi, on a chanté dans la salle.
Oui, j'ai vu les photos.
Moi, je me suis mis au dernier rang
parce
que ça me permettait de me lever, de faire les chorégraphies en même temps.
Ah oui, d'accord. Mais au dernier rang, c'est dommage, on ne vous voyait pas.
Oh, tu sais, on n'a pas besoin d'être vu. Nous, on essaie d'être discrète.
Oui, c'est
sûr. Il y a les cornettes.
Là, oui, c'est vrai.
Et nous avons quand même fait une petite bénédiction.
Oui.
En remerciant bien évidemment les organisateurs d'Écran Mixte de nous proposer ce film qui est militant quand même.
Oui.
Puis, ce festival est militant quand même.
Exactement.
Et je pense que c'est une grande chance que la communauté LGBT de Lyon et les Lyonnais et les Lyonnaises, même s'ils ne sont pas de notre communauté, ont d'avoir ce festival qui est dynamique, qui est jeune, qui propose des découvertes cinématographiques. Pour ceux qui aiment le cinéma. Non, c'est vraiment très chouette d'avoir tout ça.
Qui est à la fois un festival de patrimoine.
Oui.
La preuve avec Priscilla folle du désert, 22 ans déjà. Et puis aussi un festival où effectivement on peut voir des nouveautés, des inédits, etc.
Oui.
C'est un mélange des deux qui est très intéressant.
Pour les cinéphiles et pour nous, c'est très très bien.
Très bien.
Et je lui souhaite, et je pense qu'on peut leur souhaiter, une longue vie.
Là, c'était, je crois, la 7e édition.
Oui.
Là, je peux peut-être en placer une, puisque je suis membre je suis membre de l'association. Encore une.
Donc, partout.
Il y a un petit peu de ça, ouais. Là, c'est certain que la participation des sœurs, c'était impossible de présenter le film Priscilla, Folie du désert, sans avoir une participation des sœurs. Donc, on a vraiment poussé au maximum. Et on les remercie chaleureusement de nous avoir retrouvés pour cette projection. C'est une projection de folie. C'est vrai qu'il y avait les sœurs. On a eu énormément de participation de personnes qui sont venues déguisées, qui sont venues habillées pour l'occasion. Ça nous a permis quand même de travailler sur la visibilité. On a fait notre petite gay pride improvisée en descendant du centre jusqu'au Pâté. Bon, on n'était pas très nombreux, mais ça a été un très très bon moment. En ce qui concerne le festival, effectivement, ça a été un grand succès. Hein. La sélection a été exemplaire avec des films de qualité. qui ont permis de revenir sur beaucoup de points, que ce soit sur l'intégration de certaines communautés qu'on voit pas beaucoup dans notre, je dirais, cercle LGBT. Vraiment un grand succès, effectivement, c'est surtout qu'on va tâcher à ce que l'année prochaine ce soit un succès au moins équivalent.
J'en dis compte bien.
Je voulais juste préciser quelque chose. À l'occasion de notre bénédiction, donc pour la clôture de ce festival, nous avons quand même rappelé, à mot couvert, qu'un des vœux que les sœurs ont prononcé, c'est le vœu de visibilité, de rejet de la honte et de la culpabilité stigmatisante. Et que bien évidemment, dans ce cadre-là, alors c'était un peu folklore de voir des gens qui sont arrivés avec des magnifiques costumes, etc. Mais que il ne faut pas oublier quand même que cette visibilité, ce rejet de la honte, ne s'arrête pas à l'entrée des chambres obscures, en fait. Et que pour certains et pour certaines, cette visibilité, ben, c'est tous les jours qu'il faut militer. Voilà. Donc ça, on a trouvé que c'était très très important de le rappeler. Et que les sœurs, c'est pour ça que peut-être nous n'avions pas répondu, on va dire, aux demandes, nous ne sommes pas les folles de service. Et nous ne sommes pas les travelottes qu'on veut avoir uniquement parce qu'on fait la projection de tel ou tel tel film, et que c'est bien pour le fun d'avoir une paire de travelots sur scène. Voilà. Donc les sœurs, c'est pas ça du tout.
En fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que là on était sur la dimension militante, comme tu le disais. Priscilla reste un film extrêmement d'actualité, notamment en ce qui concerne le mot parentalité.
Oui.
C'est pour ça que là on soutenait vraiment la démarche de vraiment d'inclusion, de visibilité. Ben, surtout dimension le lutte, hein, on revient sur cette convergence de lutte à laquelle tout le monde participe.
Oui, sur l'aspect global, on va dire, des rejets des minorités, hein, parce que dans ce film, quand même, les aborigènes sont très exclus, on le voit. Hein. Et alors, ce qui est très, très amusant, parce que je ne l'avais pas vu, moi-même, j'en avais pas pris conscience quand je l'avais vu il y a 22 ans, c'est qu'en fait, la personne qui chante dans le générique de fin, eh bien, c'est un des aborigènes qui a été un peu enrôlé, on va dire, quand ils sont dans le désert, en fait. Et ça, j'avais pas du tout pris conscience de ça, en fait.
Oui, parce qu'au-delà même, il y a convergence, en fait, entre différentes histoires, je dirais, hein, qui finalement convergent, que ce soit effectivement les aborigènes.
C'est là que je pense, effectivement, le film rejoint la démarche des sœurs, dans le sens où il y a un aspect ludique, il y a un aspect fun qui est indéniable, mais en fait, quand on le regarde plus posément, il y a un vrai message, une vraie réflexion.
C'est-à-dire, voilà, au-delà du spectacle de travelot, comme disait ma sœur, il y a quelque chose, une autre dimension beaucoup plus importante derrière. Il y a, le fun, mais effectivement, il y a tout le message.
Revendiquer le droit à la différence, le droit à vivre sa vie comme on l'entend, tout à fait.
Mais c'est un très grand film, Priscilla, Folle du désert. C'est un très grand film, et aussi au niveau visuel, c'est un très grand film. C'est vraiment un chef-d'œuvre, on peut le dire. Donc on remercie Écran Mixte de nous avoir représenté. Donc les sœurs, effectivement, ma sœur, on pourra reparler du rôle des couvents, des sœurs de la perpétuelle indulgence, qui sont maintenant aussi ancrées dans l'histoire LGBT, I, Q, F, tout ce qu'on veut. Hein, voilà. Depuis de très nombreuses années. Oui. Mais on en reparlera un peu plus après notre première interlude musicale que Boris va tenter de mettre à l'antenne.
Interludon.
Voilà. Alors on avait dit que c'était on passait d'abord Chuck Berry en premier.
Oui, envoie la sauce, Boris.
Learned to read a
bien voilà, ça s'est bien passé. C'était Chuck Berry. Alors, souvent, je dis, malheureusement, notre émission, c'est un peu une rubrique nécrologique, parfois, parce qu'on fait toujours des hommages aux morts. Il y a eu beaucoup de morts célèbres, d'artistes qui sont morts.
Ouais, cette année passée, c'était une horreur.
Ah oui, c'était une hécatombe, et puis ça continue un peu cette année. Bon, certes, on dira Chuck Berry, dont nous venons d'entendre un des titres les plus célèbres au monde. C'est Johnny B. Goode, donc, avec quand même 90 ans, certains diront.
C'est honorable.
Mais, voilà, c'est honorable, mais c'est quand même une personnalité extrêmement importante au niveau musical. Dans l'histoire de la musique contemporaine et en général. Voilà, donc c'était un petit hommage à Chuck Berry qui vient de disparaître. Et bien, nous allons continuer avec Sœur Lola Rosa.
Mais oui, mon grand.
Jean-Yves, du Toujours Centre. Là. Voilà, donc du Centre et autres, etc.
Hein, voilà. Ça, voilà. Du Centre et des périphéries. Et
voilà. Alors, du coup, Sœur Lola Rosa, on rappelait, vous rappeliez à juste titre que le côté Travelot, c'est bien sympa, mais ça va au-delà, et notamment le couvent des Trabous, enfin les couvents en général, les sœurs en général, depuis qu'ils existent, depuis qu'ils sont nés en 79, je
mais
crois,
tout à,
San
Francisco. Mais tu as bonne mémoire.
Voilà. Et était un mouvement militant à la base, qui très vite, par la force des choses, je dirais, s'est vu confronté à la pandémie du sida, aux États-Unis, qui a explosé dans la communauté gay, comme on disait à l'époque, dans les années, au début des années 80. Et très vite, le couvent des sœurs, les couvents des sœurs, se sont engagés dans une lutte sans merci et sans répit, je dirais, pour le sida. Enfin, pour le sida, je me comprends. Dans la lutte contre le sida, le VIH, pour aider les malades, pour aider les gens concernés par le VIH, mais aussi pour essayer de faire prendre conscience à la société de ce qu'était la maladie et de lutter aussi contre les préjugés qui étaient accolés.
Oui.
C'est vrai que c'est les gros morceaux du militantisme des sœurs. C'est pas que, mais les premières années, évidemment, ont été complètement bercées par, malheureusement, par la pandémie du sida.
Oui, c'est ce qui est un peu particulier dans notre histoire, de notre désordre joyeux.
Ouais.
C'est que, oui, très rapidement, l'épidémie a été importante et que les sœurs fondeuses, nos pondeuses, elles ont été confrontées à cette question. Et très rapidement, on va dire, avec beaucoup, j'ai envie de dire, de simplicité et d'organisation pragmatique, elles ont recueilli des fonds, déjà, pour aider les malades, pour aider les conjoints. Et très rapidement, comme elles étaient sœurs, donc elles ont organisé aussi des petites cérémonies pour accompagner les décès, pour accompagner les... Voilà, tout ça. C'est ce qui fait que depuis ce temps-là, en fait, les sœurs de la perpétuelle indulgence, en tous les cas, au début, aux États-Unis, sont devenues les petites sœurs de la communauté LGBT.
Oui.
Voilà.
Oui,
c'est ce qui les a positionnées un peu...
Des figures incontournables, en quelque sorte les prêtresses de la communauté LGBT.
Et c'est ce qui fait aussi que par leurs actions, on va dire charitables, d'entraide, de solidarité, mais vraiment actives, concrètement sur le terrain, elles sont devenues donc des citoyennes d'honneur de la ville de San Francisco et bien évidemment après dans d'autres villes aussi.
Parce qu'à partir de San Francisco, les couvents ont essaimé en fait.
Oui, bien sûr, ça fait un
aux États-Unis, voilà, en Amérique du Nord et puis en Europe. Oui. Donc on a maintenant nos couvents aussi en Europe et en France notamment, puisque vous êtes là, ma sœur, pour vous en êtes la preuve vivante.
Oh mais oui, tiens, pince-moi.
Ah oui, bien c'est pas un mirage, elle est bien là.
Je suis bien là.
Voilà, c'est pas une simple apparition mystérieuse, mais vraiment elle est de chair et d'os.
C'est bien moi qui cause dans le poste.
C'est une simple apparition, mais
non, je ne suis pas, comme on dit, tu sais, on doit cocher la case. Êtes-vous un ordinateur? Non, êtes-vous un robot?
Un robot.
Non, je ne suis pas un robot.
Alors. Que voulais-je dire? J'ai été perturbé par tout ceci. Je voulais dire quelque chose de très intéressant, comme d'habitude, mais j'ai complètement oublié. 6 mois, voilà ce que je voulais dire. Je voulais rappeler.
On y revient.
Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le départ, les sœurs, mais c'était peut-être pas volontaire tout de suite, mais ont pris justement tout l'attirail, le folklore, entre guillemets, certains diront que c'est pas du folklore, des sœurs, donc des catholiques, en fait. C'est ça qui est extrêmement amusant, puisque les sœurs, elles se parent aussi de symboles religieux, entre autres, pas que, mais aussi de symboles religieux. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles devaient lutter, notamment aux États-Unis au début de l'épidémie, contre ce qu'on peut appeler les fous de Dieu aussi, qui disaient que le sida, c'était une épidémie envoyée par Dieu pour punir les pécheurs sodomites.
Voilà. Tout à fait.
Et vous, les sœurs, vous avez repris un peu...
Mais il y a quelque chose de cette histoire qu'il ne faut absolument pas voiler ni cacher. C'est que, bien évidemment, les 4 ou 5 militants qui ont décidé de prendre des robes de bonne sœur, c'est à la fois parce qu'ils les avaient achetées pour faire un spectacle, etc. Mais le fait de les revêtir, et puis de sortir dans la rue habillés comme ça, et puis que ça fasse un peu une sorte de... on dirait aujourd'hui de buzz. Et puis que ça fonctionne, c'est bien évidemment pour faire un pied de nez au pluriel cette fois-ci, aux églises chrétiennes au pluriel, puisque c'est pas tout à fait comme chez nous. Aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup d'églises chrétiennes. Donc c'est bien pour faire un pied de nez à ces gens-là que le costume de sœur a été pris. Dans le sens où on pourrait dire en France une sorte un peu d'anticléricalisme, parce que c'était vraiment pour leur montrer que nous on va être des vraies bonnes sœurs et on va vous montrer ce que c'est que l'amour inconditionnel en fait.
Alors là, ça va être la grande question du soir. Comment endossez-vous cet héritage ?
Tout simplement avec quelques perles, quelques bouts de chiffon. Et puis,
quel message souhaite faire passer les sœurs maintenant ? On va revenir évidemment au sida, puisqu'il va y avoir le sida action bientôt. Mais globalement, quel message ? Un message de paix, d'amour, nous le savons. Nous n'êtes que paix et amour.
Oui, absolument.
Voilà. Mais encore.
Oui, alors je pense que... En fait, on est, je pense, très fidèle au premier message que nos pondeuses ont imaginé à San Francisco. Alors, tu viens de parler de la paix et de l'amour, mais si on y revient plus précisément, je pense que il y a très très peu de mouvements ou d'organisations qui sont pacifistes, au sens véritable du terme. C'est-à-dire, nous pensons que la meilleure solution pour vivre entre nous, c'est d'être dans l'amour de l'autre. Mais l'autre, pas parce qu'il est moi-même, mais parce qu'il est différent. Un peu comme le disait Lévinas. Excuse-moi, je vais peut-être un peu loin. Et aussi de trouver la paix en nous. Parce que c'est pas évident d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec les autres. Notamment quand on a vécu une journée un peu de merde, il faut le dire. On a plutôt envie de tuer tout le monde, ou de cracher sur tout le monde, ou de siffler tout le monde, ou de hurler. Non, en fait, c'est pas si simple que ça, ce concept de la paix. De la paix en soi et avec les autres. De la joie aussi, c'est pas si évident d'être joyeux. Il y a tellement de choses qui nous ramènent dans des noirceurs, finalement. Donc les sœurs sont vraiment là pour, on va dire, apporter un peu de joie, un peu de paix à chacun. Et puis le deuxième message le plus important qu'elles ont imaginé dès le départ, c'est ce rejet de la honte. Le rejet de la stigmatisation, etc. De dire aux gays, de dire aux lesbiennes, aux bi, aux trans, aux putes, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes beaux, vous êtes belles, tel que vous êtes. Et nous vous aimons tel que vous êtes. Ben ça, c'est pas évident, notamment quand on sait qu'aujourd'hui, encore en 2017, y a des gens qui ont du mal à assumer leur homosexualité, leur lesbianisme, etc. Qui ont du mal avec leur transidentité. Tout dépend dans quel milieu les gens vivent, dans quel territoire, avec quelle famille. C'est pas forcément toujours simple pour tout le monde. Donc je pense que ce message, il est encore valide aujourd'hui, en fait.
Alors, on parlait justement de Priscilla Folle de l'Isère. Il y a des jalons comme ça, grand public, puisque Priscilla Folle de l'Isère, c'est aussi un film grand public, qui font parfois un peu évoluer les choses, avancer les choses. Et puis il se trouve que là, en 2017, parce que je voulais en parler, parce que je voulais demander l'avis des sœurs, et puis aussi le tien, donc Jean-Yves, concernant... Alors, on a aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui qu'est sortie la dernière production des studios Disney, c'est La Belle et la Bête. Et il se trouve que La Belle et la Bête, il y a une scène qui d'ailleurs a été censurée dans certains pays, où certains pays ont mis, comme la Russie, le film a interdit le film au moins de 16 ans, faut le faire quand même, parce qu'il y a une scène, enfin en tout cas il y a un personnage qui s'appelle le fou, c'est un personnage un peu faire-valoir qui apparaissait dans le dessin animé originel de Walt Disney. Là il s'agit d'un film, comédie musicale, etc. Et le personnage de le fou, à l'occasion de la sortie de ce film, enfin pour la réalisation de ce film, le réalisateur s'appelle Bill Condon, voilà, on n'en invente pas, le fou est devenu un personnage un peu moins fantaisiste, et surtout un personnage qui se questionne sur son orientation sexuelle. Et ça, c'est nouveau dans une production Disney, puisque le personnage s'avérera amoureux de Gaston. Alors, est-ce que vous savez qui est Gaston, ma chère sœur ? C'est celui qui est amoureux de la belle.
Oh, voilà. Mon Dieu.
Donc, et le fou, il s'avéra, et donc, est amoureux, en fait, de Gaston. On ne sait pas, je ne vais pas te spoiler. D'ailleurs, moi-même, je ne connais pas la fin de l'histoire avec le fou. Mais, et en tout cas, il y a un côté, un personnage ouvertement homo, gay, dans une production des studios Disney. Alors, comme je le disais, ça, comment dire, ça a choqué dans certains pays. Il y a des pays où le film ne sera pas diffusé, où le film est, où les scènes ont demandé à ce qu'elles soient coupées, ou comme en Russie, où le film est interdit au moins de 16 ans. Alors qu'il n'y a pas de scène explicitement de baiser, changer, etc., entre les deux personnages en question, entre le fou et son amoureux, etc., enfin celui dont il est amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution ? Parce que les studios Disney assument complètement, ils disent, voilà... Voilà, maintenant, ils assument complètement les réalisateurs. Le soutien, il est complètement soutenu par les studios Disney en disant il faut, justement, pour la diversité. Alors, est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que c'est bien aussi? Qu'est-ce que on peut...
Il y a forcément une dimension marketing. Après,
parce que c'est américain, donc, déjà.
Voilà, j'allais dire... moi, du coup, bon, je n'ai pas vu le film. C'est vrai que, par contre, j'en ai beaucoup entendu parler par le biais de la presse américaine où il y a une polémique sans nom qui a été déclenchée là-bas sur ce point-là.
Oui, parce qu'il y a des États qui refusent de le diffuser.
Oui,
ben
voilà.
Aussi.
C'est vrai que forcément, dans le contexte de l'élection de Donald Trump, évidemment, c'est de ce point de vue-là, je dirais que, bah, que ce, quelle que soit la vraie raison, déjà, le geste de Disney doit être salué, quelles que soient les véritables motivations de l'administration, des dirigeants de Disney, bah, ça permet quand même à la fois d'assurer une visibilité, ça permet également de toucher un public qui risque d'être quand même un peu plus sensible à ces problématiques-là. Bon, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'a priori, la scène reste très timorée. Hein, on n'est pas du tout sur quelque chose de vraiment
militant. Oui, y a pas de, c'est pas explicite.
De toute façon, je pense que c'est toujours bon à prendre. Hein. Oui. Y a pas, après, bon, mais c'est un premier pas. Après, de voir, bon,
oui, parce que Disney, ça évoque l'univers enfantin, en fait. Voilà.
C'est ce à quoi je pensais. Voilà, de dire, c'est quand même une manière d'introduire des thématiques chez un public où... En tout cas, aux États-Unis, je disais, ça reste une vraie problématique, cette idée de continuer de maintenir une restriction de l'accès à un public enfantin sous prétexte de morale, bonne conduite, etc., etc. Donc rien que ça, je pense que c'est déjà un apport assez considérable, effectivement.
Oui, alors moi j'ai imaginé, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, ma sœur, vous trouvez cette initiative intéressante ou vous en foutez royalement?
Oh, non, je m'en fous pas, non. Mais pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux rien en dire.
Mais l'idée qu'un personnage s'interroge sur son orientation sexuelle dans un film de Disney...
Moi, j'attends de voir, en fait. Ouais. J'attends de voir les images pour pouvoir les analyser et ensuite peut-être me demander le personnage que ce film propose, comment il s'inscrit dans l'histoire des personnages gays du cinéma, essayer de voir si ça propose une image, on va dire, contemporaine, ou si on est encore dans les clichés tels que le cinéma américain a pu nous en produire. Pour l'instant, je peux rien dire. J'attends de voir et j'analyserai les images et la nature même du personnage qui nous est proposé. Voilà.
D'accord.
Et puis Boris, on peut pas dire que La Belle et la Bête soit une histoire profondément
enfantine.
Oui.
Non, mais je disais, c'est surtout les. Oh, je perds mes bijoux. C'est surtout les studios. Je ramasse.
Mon bijou. Ah, on a perdu.
Non, je suis dans la table. Non, je veux dire, Disney, c'est vrai que c'est toujours associé à un côté un peu univers enfantin. C'est vrai que La Belle et la Bête, l'œuvre en elle-même n'est pas. D'abord, à la base, c'est un conte qui n'est pas spécialement destiné aux enfants, comme beaucoup de contes à l'origine. Et puis ensuite, on pense à l'œuvre de. Voilà. On pense à l'œuvre de Jean Cocteau, évidemment, la filmographie 1946, c'est une œuvre très poétique, très belle, avec beaucoup de messages aussi, d'ailleurs.
De sous-entendus. Oui.
Voilà, plein de sous-entendus, effectivement. On se rappelle aussi que. Donc, qui était destiné quand même à un public, on va dire, bon, les enfants peuvent regarder, mais quand même, Jean Marais est assez effrayant, je trouve, dans La Belle et la Bête. Moi, je l'ai vu enfant, et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. Et il faut rappeler aussi que Jean Cocteau, qui a écrit, qui a réalisé le film en 1946, était lui-même, bon, on le sait, en couple avec Jean Marais pendant de nombreuses années, etc. Et je me suis dit, peut-être que c'est un clin d'œil finalement à Jean Cocteau. C'est non, mais ça,
j'irai pas jusque là.
Mais pourquoi n'y aurait-il pas un personnage gay ouvertement dans La Belle et la Bête?
C'est pas impossible. Mais
voilà. Non, mais ça n'a été dit nulle part. Et moi, c'est ce que je me suis dit, Jean Cocteau. Bon, voilà.
Bon, attend, à quand une version La Bête et la Bête?
Oui,
voilà, c'est ça, on attend toujours.
Ah,
mais
ça.
Voilà, ça pourrait. Oui,
le beau et la bête.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Également, tout à
mais,
fait.
Mais le film dont nous parlons, là, comme le dessin animé qui a été réalisé il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est. C'est quand même une comédie musicale. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la magie originelle du film de Jean Cocteau, ni l'ambiance, ni l'univers originel. Bon, voilà.
Ça reste Disney.
Ça reste Disney, voilà, donc. Bon. Après, c'est vrai, le beau et la bête.
Oui, à quand.
Et oui, on attend ça.
Et surtout que la bête reste la bête. Moi, ça m'a détruit dans le dessin animé. La bête est magnifique et quand elle redevient un prince, ça casse tout.
Ah oui. Oui, tandis que Jean Marais, moi, il m'avait fait très peur quand la première fois que j'ai vu.
J'ai le même effet, moi, je flash sur les bêtes. Hein.
C'est poilu. Les poilu, ouais.
Et voilà.
Boris. Non, les histoires de Disney sont. Sans loi d'être toutes très progressistes en plus, donc on peut aussi se poser cette question-là, c'est-à-dire à quand un véritable film où des enfants, des adolescents, des jeunes adultes peuvent aussi s'identifier en tant qu'homosexuels, voilà, parce que l'enjeu il est là et aujourd'hui, bon, on peut pas dire non plus que
c'est vrai qu'on a fait beaucoup de reproches, par exemple au rôle très genré dans les Disney, puis aussi au rôle souvent des méchantes sorcières où les femmes sont montrées parfois sous un jour très, sont souvent les méchantes, etc. La jeune fille pure qui doit subir la jalousie d'une femme plus âgée qui veut la détruire, quoi, en fait, parce que elle envie sa beauté. Enfin, c'est plein de clichés, en fait. C'est plein. Puis évidemment, le prince charmant qui arrive et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Alors, voilà. Le prince charmant.
Bref, voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. Puis avoir votre avis aussi, vos avis respectifs. Alors après, en deuxième partie, on va revenir plus sur l'actualité du couvent, en rapport aussi avec le site d'action. Oui. Là, je tenais à ce qu'on écoute un morceau des Sister Sledge.
Oh oui.
Voilà, c'est bien ça. Hein.
Oui, très bien.
Voilà. Sister Sledge, parce que encore une fois, c'est un rapport au décès d'une des. C'était quatre sœurs, les sœurs Sledge, donc. Et une s'appelait Johnny, J-O-N-I. Vient de décéder à 60 ans, a été jeune. Et les Sister Sledge ont été un groupe disco très connu dans les années 70 et 80, qui ont fait de grands hits. Ils ont été notamment chapeautés beaucoup par le fameux, l'incontournable Nile Rodgers, qu'on trouve un peu partout, notamment derrière le groupe Chic à l'époque, etc. etc. Et pas seulement. Et donc, les Sister Sledge ont eu beaucoup de tubes qui sont devenus des véritables tubes disco-cultes, on dira, dont un s'appelle... Alors, c'est « Nous sommes une famille, j'ai toutes mes sœurs avec moi ». Alors, évidemment, c'est un groupe de sœurs. Donc, elle parlait de ses sœurs, mais la communauté LGBT en a fait un message plus étendu. « Ma famille est avec moi, j'ai tout, comme ce soir, j'ai mes sœurs avec moi ». Donc, c'est ça. Donc, et c'est un tube qu'on entendait « We are family » dans énormément de discothèques LGBT, etc. C'est un des anthèmes, un des hymnes de la communauté.
Mais oui.
On va écouter tout de suite
Très heureuse d'être dans cette émission sans fleurs ni couronne. Merci, mon grand, d'avoir invité.
Yeah.
pêche, ça met la pêche, Sister Slash. D'ailleurs, sœur Lola Rosa, elle est déchaînée, la sœur.
Ah oui, non, alors, ça m'a...
Voilà, heureusement qu'on n'a pas... Ah oui, non, mais il n'y a pas les caméras et tout, parce que là, on aurait vu une sœur Lola Rosa complètement déchaînée.
Ah oui, je mouille déjà.
Grimper au plafond.
Mais oh, heureusement, on l'a retenu encore.
Oui, ouais. Heureusement, vous avez, à l'autre bout du fil, vous n'avez pas l'odeur.
Ce qui manque, faudra y travailler.
Et oui.
Amis de la poésie, bonsoir. Donc, on parlait, on disait, c'est vrai que Chuck Berry, Johnny Sledge, j'en parle souvent, et rubrique nécrologique, et c'est comme ça, malheureusement. Arrêtez de mourir, s'il vous plaît.
Bon, nos invités, par contre, sont tous vivants.
Oui.
Hein. Oui.
On a tous. Eu peur de perdre Lola Rosa, quand même, parce qu'elle était tellement déchaînée. Mmh. Hein.
Ce ne sont pas des
heureusement que la fenêtre était fermée, parce qu'elle aurait pu passer par la fenêtre, s'envoler. Faire une élévation, comme Sainte Thérèse d'Avila.
Voilà.
Hein,
une petite et lévitation. Voilà.
J'ai toujours comparé
une
Marie
petite
à...
petite lévitation.
Oui, oui, voilà, une lévitation.
Sainte vision à l'ascension, tout va bien.
Donc,
Gérald, on se ressaisit.
On se ressaisit, mais malheureusement, on va encore parler de choses qui ne sont pas bien sympas, puisque, bon, pas bien sympas. C'est vrai, il y a le SIDA Action ce week-end.
Bah, SIDA Action. Tu le regardes.
Oui, voilà, c'est voilà. Ça. Mais c'est vrai que SIDA, moi, je regarde avec mes yeux de vieille schnock, et je me rappelle que le SIDA, au début, c'était l'horreur pour tout le monde. Tout le monde avait peur, tout le monde flippait, tout le monde se faisait dessus, tout le monde, il y avait des morts, il y avait des choses horribles. Maintenant, c'est vrai que le sida, à l'heure actuelle, on a l'impression que c'est même plus la priorité, même parmi ceux les plus concernés. Enfin, c'est mon impression, en tout cas. On sait par exemple que... Enfin, moi, je vois par exemple les chiffres. Depuis des années, le nombre de jeunes HSH, on rappelle, hein, les hommes qui ont des rapports avec des hommes, sans qu'ils se définissent spécialement homosexuels, gays ou autres, ou bi, ou etc. Bref, tous les comportements sexuels qui réunissent les hommes entre eux. Mmh. Et bien ceux-là, les jeunes, entre 15 et 24, le taux de prévalence a triplé en 10 ans, je crois.
Une catastrophe. Pour le... voilà. Je grossis un peu le trait, mais effectivement, il y a un vrai recul de la prévention, de la communication. C'est là que le site d'action prend un sens vraiment décuplé aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il y a un oubli, mais en tout cas, on sent que, comme tu le dis, c'est plus une priorité en fait.
Oui, ça ne fait plus peur en fait.
Presque. Là, ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un certain ostracisme. Ça fait peur quand on prend conscience que quelqu'un est séropositif. Il y a encore une certaine forme d'exclusion, je dirais même qu'il y a une forme d'exclusion certaine qui subsiste, mais par contre, effectivement, dans le discours, dans les attitudes, on fait comme si le sida, comme si les séropositifs n'existaient plus, ce qui, pour moi, reste extrêmement délétère.
Oui. Alors, je sais qu'à l'antenne, on avait eu, il y a quelque temps de ça, Jean-Luc Romero, à l'occasion de sa venue à Lyon, pour présenter son livre, et son dernier ouvrage. Donc, il parle à nouveau de son sida, après 20 ans après son premier livre à ce sujet. Il disait que, certes, la maladie est devenue invisible, mais qu'il était pour lui plus difficile de vivre avec le sida aujourd'hui, en 2016-2017, je l'avais eu en 2016, qu'il y a 20 ans.
Moi, je serais d'accord. En tout cas, encore une fois, toujours, c'est pas seulement une invisibilité, c'est une invisibilisation, je pense. Il y a aussi le fait qu'on rejette un petit peu la responsabilité du comportement des malades sur les malades eux-mêmes, en disant que c'est à eux à prendre la trithérapie, c'est à eux à prendre leurs précautions, c'est à eux à annoncer, par exemple dans le cadre de rapports sexuels, qu'ils sont séropositifs, en oubliant que la responsabilité est toujours partagée. C'est également aux personnes qui ont des rapports sexuels, quels qu'ils soient, avec qui que ce soit, de se protéger, de s'informer sur les modes de transmission, etc. Et c'est là que je disais qu'il y a un recul certain, en tout cas comparé justement à, par exemple, quand l'épidémie était vraiment encore très très forte.
Sœur Lola Rosa, est-ce que vous pensez que l'action à l'heure actuelle contre le sida, d'une part, est encore absolument indispensable, des actions comme le SIDAction, par exemple. Et est-ce que vous pensez que toutes les actions menées par les différentes parties, alors je sais que vous n'aimez pas parler en mal d'autres associations, mais est-ce que vous pensez que tout est véritablement bien fait, y compris par les associations principales, pour justement, ça va dans le bon sens, leurs actions. Moi, j'ai un sous-entendu quand je dis ça, parce que moi j'en parle souvent, c'est par rapport à la PrEP. La PrEP, je trouve que ça a été, pour moi, la façon dont la communication a été faite a été une catastrophe, à mon avis.
Je suis trop content de te l'entendre dire. Ouais. Moi, je partage complètement.
Moi, on me traite de vieux con souvent.
Non, mais je partage complètement ton avis. Je suis ravi de pouvoir exprimer cette idée-là. Je ne suis pas du tout contre l'utilisation de ce médicament, mais je pense qu'effectivement, la communication occulte les autres modes de protection contre le VIH. Il y a également le fait que ce médicament ne peut servir que contre le VIH et il y a beaucoup d'autres maladies qui restent sexuellement transmissibles dont on ne parle pas, notamment les hépatites qui restent quand même en recrudescence. Je pense aussi qu'il y a pour moi un véritable problème à proposer à des gens sans vraiment leur expliquer les conséquences, de leur proposer de prendre un médicament qui est aussi engageant, qui reste aussi lourd sur l'organisme. Les effets de la PrEP sont quand même extrêmement lourds. Toute proportion gardée, ça me donne un petit peu l'impression que c'est comme si on disait à quelqu'un, bah, écoute, il est possible qu'un jour tu aies un cancer, alors on va te faire une petite chimio-préventive. Et ouais, quand même, quand on compare les conséquences de la PrEP à la capote, bah, je suis désolé, moi je préfère la capote. Hein. Alors oui, au point de vue du plaisir, etc., ça peut rester... Je comprends tout à fait que certaines personnes disent que le préservatif diminue le plaisir. Ok, bon, bah, c'est là qu'on peut discuter avec ses partenaires, de voir il y a d'autres moyens de pouvoir avoir des relations sexuelles. Il y a le dépistage, par exemple. C'est le seul point positif de la PrEP, d'ailleurs, de quand même de pousser à un dépistage plus systématique.
Et vous, ma sœur, comment pensez-vous alors de tout ceci ?
Je rebondirai sur ce que tu dis, Jean-Yves. Moi, je n'ai pas de vérité, hein, mais par contre, je me pose beaucoup de questions dans mon travail de sœur. C'est évident, hein, quand nous faisons la tournée des bars et que nous avons des échanges avec les mecs, etc., c'est sûr que, d'abord, oui, cette question, la question de la PrEP pose beaucoup d'interrogations aux mecs. Et ensuite, le rapport que chacun peut avoir au préservatif et au plaisir dans sa sexualité, ça c'est sûr que je pense qu'il faudrait peut-être déjà commencer par se poser ces questions-là. Se dire quelles sont les raisons, et elles sont probablement multiples, diverses, qui conduisent des hommes à ne plus utiliser le préservatif dans leur sexualité. Alors que nous avons, par ailleurs, toutes les connaissances théoriques sur les modes de transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH. On le sait, oui, que le préservatif est un des meilleurs moyens. Voilà. C'est pas aujourd'hui, au bout de 30 ans, qu'on va que les gens découvrent ça. Non, non. Donc, on a les connaissances théoriques d'un côté, mais chacun a une sexualité qui est un peu déconnectée de ses connaissances, en fait. Et c'est là où il faudrait peut-être essayer de s'interroger qu'est-ce qui conduit un certain nombre de personnes à se dire « moi, j'ai plus envie de prendre le préservatif dans ma vie sexuelle ». Et puis qu'on essaie de lister un petit peu les raisons pour lesquelles chacun en arrive
tout simplement
à ses conclusions.
La maladie n'est plus mortifère, en fait.
Il y a peut-être ça, c'est peut-être un des facteurs. C'est peut-être aussi le fait que les traitements, on va dire, sont de plus en plus efficaces. Les effets indésirables aussi de la trithérapie sont, eux aussi moins importants. Mais ce qu'on oublie peut-être aussi de dire, parce que ça c'est, on va dire, le revers de la médaille, c'est ce que tu disais à propos de Monsieur Romero, qui disait que c'était difficile de vivre avec le VIH, et je crois que ça c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on oublie trop souvent de dire que ça n'est quand même pas simple dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, quand on a des enfants, qu'on est marié, etc., dans sa vie amoureuse, dans sa vie sexuelle, dans sa vie professionnelle. Ça n'est pas toujours évident. En tous les cas, tous les patients ne sont pas à égalité. Et ça, on oublie de le dire. Il y a des patients pour lesquels ça se passe très très bien.
Pour certains, pour dans leur quotidien.
Voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est un peu plus délicat, c'est plus difficile à gérer, c'est plus douloureux. Pour des raisons, on va dire, psychologiques, pour des raisons, on va dire, aussi quelquefois bassement matériel, physiquement, supporter le traitement, parce que c'est quand même pas des pastilles Valda.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ah, oui. Je crois qu'on oublie trop souvent de parler de ces facteurs. Bon, pour revenir à ce que je disais sur la question de pourquoi on préfère la PrEP plutôt que le préservatif, alors oui, la solution de facilité, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça ne protège pas des autres maladies sexuellement transmissibles. Bon, en tous les cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que...
Y compris qu'ils sont en recrudescence, comme la syphilis, chez les HSH aussi, d'ailleurs.
Et c'est vrai, peut-être, que la communication qui a été faite autour de ça, l'empressement peut-être aussi du corps médical, à se dire, c'est une façon de faire chuter les taux de contamination, ce qui est vrai en soi, et ce qui peut s'envisager aussi pour la collectivité, c'est de se dire... S'il y a moins de séropositifs dans les années qui vont venir, évidemment, les finances publiques se porteront mieux, la sécurité sociale se portera mieux, parce que c'est quand même cher, un traitement de prise en charge. Donc, voir les choses à long terme comme ça, on peut l'entendre, oui, bien sûr, c'est tout à fait positif. Il n'en reste pas moins que dans la vie de tous les jours, c'est sûr que, en fonction de la sexualité qu'on a, c'est peut-être pas très judicieux de prendre la PrEP. Il faut peut-être mieux en rester au préservatif, et surtout... aussi, parce qu'on oublie très souvent, c'est parler avec ses partenaires multiples, parce qu'ici, il ne s'agit pas de s'arrêter de faire des plans cul, il s'agit simplement de se dire, j'accueille un plan cul, mais est-ce qu'on peut, avant, se dire, où est-ce que tu en es de tes pratiques? Est-ce que tu as fait un test faire des tests régulièrement. Et à ce propos, je crois qu'on peut rajouter tous ensemble que nous avons la chance d'avoir à Lyon un centre de dépistage en plein centre-ville qui accueille jusque très très tard, y compris quand il y a des soirées. Moi, dernièrement, on a fait un petit tour pour dire bonjour aux médecins qui faisaient encore du dépistage à 11h du soir. Et je trouve que ça, c'est quand même extraordinaire pour la communauté lyonnaise d'avoir ce lieu anonyme de dépistage en plein centre-ville.
De dépistage rapide,
etc. Et d'écoute aussi.
Oui, bien sûr.
Y compris pour les personnes trans.
Ils sont pas
Il y a des accueils.
Puis les personnes ne sont pas dans ce cadre-là, elles ne sont pas laissées seules à elles-mêmes avec le résultat.
Et où on est sûr aussi que dans ce lieu-là, il n'y a pas de jugement sur la sexualité, etc. Oui. Ça, c'est quand même très important. Bon, ça n'enlève pas le fait... comme on était en train de parler du SIDAction et de cette question de la PrEP et de tout ce qui tourne autour de la sexualité, que dans la communauté LGBT, il y a quand même beaucoup de sérophobie et que ce moment-là, c'est aussi un moment pour rappeler que les séropositifs sont des personnes qui peuvent avoir des rapports sexuels, aimer, etc., être aimées.
Oui, tout à fait. Alors, donc, on le disait, 24, 25, 26 mars, c'est ce week-end, c'est journée du SIDAction.
Oui.
Donc, depuis de très nombreuses années maintenant, depuis plus de 20 ans, toutes les années à la même époque, les médias se mobilisent, en fait. C'est une association, SIDAction, qui a mobilisé de nombreux médias et beaucoup de partenaires, des associations, etc., dont vous faites partie, mes sœurs, participent à SIDAction, dont le but principal est de financer la recherche, d'une part, et d'autre part, les associations qui viennent en aide aux malades ou aux personnes concernées par le VIH.
Absolument.
Voilà. Or, il se trouve que les sœurs, elles, depuis des années, on en a parlé, sont totalement investies dans toutes les actions concernant la lutte contre le SIDA, le VIH, et que régulièrement, vous donnez beaucoup de vous-même à chaque SIDAction. Vous êtes sur le trottoir, livrez entièrement.
Alors là, c'est l'occasion pour nous de mobiliser talons, barésie. Ouais. Tenue incroyable, etc. Et puis alors, on arpente et on vide les poches.
Et voilà. Mais pour la bonne cause.
La bonne cause. Oui. On remplit les bourses du SIDAction.
Exactement. Et c'est ce qu'il faut. Vous avez chanté.
Et nous serons bien évidemment sur les trottoirs de Lyon. Alors, nous invitons tout le monde à nous rejoindre le vendredi. Alors, on n'est pas toutes seules, quand même, je dois dire. Donc, avec l'association FRIS et l'association Cabiria, nous avons imaginé un petit périple dans les rues de Lyon, du premier arrondissement. Nous allons faire quelques rues et quelques terrasses. Et en fait, cette année, nous les sœurs, on s'est demandé qu'est-ce qu'on avait envie de faire, on va dire, en accompagnant ces associations. Et on s'est dit quand même que le plus important, c'était l'amour. Donc nous allons massacrer quelques chansons d'amour. Que tout le monde connaît, voilà. Et donc, notre petit thème, c'est « Les sœurs chantent l'amour au coin des rues ».
C'est très beau.
Voilà, absolument. Et donc, vendredi, à partir de 19h30, nous invitons chacun chacune à venir nous rejoindre et à pousser la chansonnette avec nous.
Et donc, ça va se passer dans tous les coins de trottoir du centre-ville ?
Voilà, on va commencer déjà avec
le
centre LGBTI, puisque c'est là que démarre notre petit périple. Et ensuite, nous allons déambuler au gré de nos envies. Alors, je pense qu'on va peut-être commencer vers la place Satonnet, après descendre dans quelques bars que nous connaissons, etc. Puis des bars qui ne nous connaissent pas.
Donc il faut ouvrir l'œil parce qu'on va voir passer. Mais on n'a pas besoin de beaucoup ouvrir l'œil.
Je pense que vous allez nous entendre déjà.
Voilà.
Parce qu'on part avec le mégaphone quand même.
Hein, d'accord. Ok. Bon,
et puis alors, on espère aussi que les auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui n'avaient pas pensé à venir chanter, viendront chanter avec nous.
Nous rejoignent.
Voilà.
J'en serai.
Parce que plus on est fou, plus on rit.
Plus on rit.
Oui, et puis on s'est quand même dit que le plus important, je suis en train de perdre mon j'en perds mon voile. Voilà, je le remets. Donc le plus important, c'est quand même l'amour.
Oui, bien sûr.
Dans tout ça.
Voilà.
Avec ou sans VIH.
Oui.
Le plus important, c'est l'amour.
Oui, bien sûr. Voilà.
Et si nous avons souhaité aussi chanter l'amour, c'est pour dire aux personnes séropositives que nous ne faisons pas de discrimination et que nous les aimons tels qu'ils sont et tels qu'elles sont.
Le message est passé.
J'en profite juste pour... je fais mon travail de militant,
oui,
voilà.
Oui.
Il y aura une permanence au centre LGBTI à partir de 18h30 organisée par le Forum Gay et Lesbien.
Ça, c'est quelle date?
C'est toujours le 24.
C'est le 24.
Voilà, ça commence le 24.
Oui, c'est le 24 aussi, mes sœurs, que vous
voilà, voulez bah, en fait, voilà, effectivement, en fait, le
vendredi.
Voilà, tout à fait, les sœurs nous rejoignent.
Le premier jour.
Voilà, en fait, c'est le point de départ. Donc, c'est de...
Dès que les morues sont sorties, c'est ça?
Voilà, c'est le jour de la morue.
Voilà, l'idée, très simplement, les recettes seront également versées aussi d'accès. Et là, c'est pour tous les auditrices, tous les auditeurs, de savoir que ce sera samedi, par contre, de 11h à 18h, place Louis Pradel. On va tenir un stand. Donc là, c'est encore une fois le forum gay et lesbien et Fris. On va tenir un stand pour récolter des dons. On va vendre notamment des rubans, des ballons pour créer une sculpture volante. Bon, on verra ce que ça donne. Hein.
Ouais.
On vend également des t-shirts et l'idée, c'est toujours d'essayer de récupérer un maximum de dons pour les envoyer, enfin les remettre directement au CIDAction.
Le but, c'est ça, de ce week-end de CIDAction, c'est de récolter le maximum d'argent.
Voilà.
Pour continuer la recherche.
Donc on vous attend, nombreuses et nombreux.
Et des associations, bien
sûr. Et puis, oui, comme tu le disais, cette association, elle reverse les fonds récoltés à des projets associatifs.
Oui, et aussi à la recherche, à Paris également.
Bien sûr.
Sans oublier une dimension importante, c'est aussi l'étranger. Puisqu'il y a des associations qui viennent en aide aux personnes, notamment en Afrique subsaharienne, où la maladie, encore une fois, a une dimension autre que celle qu'on peut
les
avoir.
Les proportions ne sont pas les mêmes.
Voilà, en Amérique du Nord et en Europe, pour des raisons culturelles, économiques, etc.
Absolument.
Voilà.
Donc, c'est l'occasion, les enfants, de casser la tirelire.
Voilà.
Les étrennes de mémé.
Le petit cochon rose.
Voilà. Les étrennes de mémé que vous n'avez pas utilisées, eh ben, il faut les mettre dans la cochonne.
Et de nous gonfler les bourses, voilà.
Voilà. Dans la cochonne du CIDAction.
Bien, alors donc, je rappellerai sur Facebook, les réseaux sociaux, tout ça aussi, tous les numéros intéressants, on les a un peu partout maintenant, il suffit d'ouvrir la télé, d'écouter la radio, d'aller partout, numéro le 110 pour faire des dons, on peut même par SMS envoyer des petits dons pour les petits dons, enfin il y a des tas de possibilités pour donner des sous sur le site internet, etc. Et puis évidemment, aller à la rencontre de toutes les personnes qui sont mobilisées dans le cadre du CIDAction, dont on l'a dit, le centre LGBTI, le forum gay et lesbien, l'association Fris et nos sœurs du couvent des Traboules, dont Lola Rosa est ici présente parmi nous.
Oui.
Voilà. Et elle ne s'est pas encore évanouie.
Non, pas encore.
Elle ne s'est pas enfuie non plus. Bon, ça va. L'émission va toucher à sa fin.
Oui.
Tu ne veux pas que j'ai deux choses à dire
minutes. Oui. Je sais, je n'ai pas oublié. Ma sœur, je vais me faire engueuler. Hein. Bien sûr. Bon, ça va être vite fait, mais vous aurez l'occasion, j'espère, de revenir, nous reparler des différentes actions que vous organisez aussi. Alors, on va parler... il y a une... Vous m'avez parlé d'un concours Jésus-Marie-Joseph et les autres, c'est ça? Non, expliquez-nous ce remaquille. Non, mais
à 3 minutes de la
attends, je vais prendre.
Mais oui.
Je vais prendre la parole, donc je me remaquille, je me remets un peu de rouge quand même. Oui, alors j'avais deux choses à dire dans le poste, voyez-vous. Alors je m'approche du micro, comme ça je pense qu'on m'entend là, voilà, très bien. Alors évidemment, le couvent des Traboules organise, en collaboration avec le Lavoir Public, qui se trouve donc 4 impasse Flessel, le vendredi 7 avril. Au soir, à partir de 21h, un magnifique concours de Jésus-Marie. Donc venez costumer en Jésus délirant, en Marie extraordinaire et psychédélique. Voilà.
D'accord.
Donc on va organiser un petit défilé et une élection du meilleur plus beau Jésus et de la plus belle Marie.
D'accord.
Voilà. Et quel que soit leur genre, bien évidemment, parce que essayez de jouer un peu avec ça, s'il vous plaît. Voilà.
La confusion des genres.
Il y aura de la musique, il y aura de la bière, chaude ou froide, je ne sais pas.
Il y aura les sœurs.
Bon, voilà. Nous évidemment, on sera là
pour présider
en tant que connasse, en tant que connasse invitée. Voilà. Je pense qu'on a des sœurs du sud qui vont venir nous aider pour cette petite manifestation. Voilà. Donc ça, le vendredi, vendredi 7 avril à partir de 21h. L'avoir public, 4 impasse
Plessis. C'est celle à la Croix-Rousse, sur les pentes de la Croix-Rousse.
Et puis pour terminer, la deuxième chose que j'avais à dire, donc cette année, alléluia, alléluia mes chers enfants, grâce à vos dons, tout ce que vous nous avez donné, chaque fois qu'on est sorti, etc., nous avons la possibilité d'organiser un ressourcement. On parlait des personnes séropositives tout à l'heure. Donc un ressourcement, le ressourcement des sœurs, qui permet à des personnes séropositives de venir se reposer avec les sœurs, dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Et tout ça, ça va se situer en octobre. J'ai noté les dates. Alors, le ressourcement commencera le 18 octobre et se terminera le 23 octobre. Vous pouvez retirer votre dossier d'inscription qui sera mis en ligne à partir du 1er avril. Alors, sur Facebook, bien sûr, on va le faire. Hein. Sinon, vous pouvez envoyer un message. Est-ce que tout le monde a un crayon pour noter l'adresse à laquelle on peut demander le petit...
Il est rose, le mien.
Voilà, le petit dossier d'inscription. Donc, vous écrivez à couvent des Traboules, tout attaché, @orange.fr, et je vous enverrai le dossier d'inscription. Voilà.
Le message est passé, il sera répété. Et répéter.
Merci. Et inscrit aussi. Oui, je me permettrai peut-être de te rappeler.
Bien sûr.
De façon à ce que dans les mois qui vont venir, si tu peux juste relancer un petit peu
la cloche, il n'y a pas de problème. Voilà. Ma soeur, vous êtes toujours la bienvenue.
Mais tu sais que tu es adorable. De toute façon, je reviendrai.
Oui,
rien que pour entendre la chanson que tu.
Sister Sledge.
Voilà, ça, c'est extra. Merci beaucoup, les enfants.
Bon, il est temps de conclure. Hélas, l'heure passe vite. Une heure, ça passe vite. Merci, Jean-Yves, d'être venu. De nous avoir rejoints dans le sillage de ma soeur. Merci. Il reste une minute.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.